Chapitre 7. Le cristal change de main. 1. Tandis que certaines putes et certains barman fixaient encore bouche bée la lune sanglante, un éternuement réveilla Kim Barrymore.
Merde, un rhume pour la moisson, songea-t-il. D'autant que je dois rester pas mal dehors les deux jours prochains. J'aurai de la veine si ça se transforme pas.
Quelque chose, une plume, lui chatouilla le bout du nez, et il éternua de plus belle. L'éternuement, expectoré par son torse maigrelet et la fente desséchée qui lui tenait lieu de bouche, fit l'effet d'un coup de pistolet de petit calibre dans la chambre obscure.
« Qui est là ? »
cria-t-il. Pas de réponse. Rimmer imagina soudain qu'un oiseau, désagréable et de mauvaise plume, s'étant introduit dans la pièce pendant le jour, voltait à présent dans le noir et lui avait effleuré la figure pendant qu'il dormait. Il en eut la chair de poule. Oiseaux, insectes, chauves-souris, il les détestait tous en bloc et il chercha à tâtons la lampe à gaz sur la table de nuit avec un tel empressement qu'il faillit l'envoyer valser sur le sol. Au moment où il attirait la lampe à lui, le chatouillement reprit. Cette fois, lui soufflant sur la joue. Rimmer poussa un cri, se rencognant contre les oreillers et la lampe agrippée contre sa poitrine. Il tourna la molette latérale, entendit le sifflement du gaz, produisit l'étincelle. Dans le maigre halo de la lampe allumée, il ne vit pas volter un oiseau, mais Clay Reynolds assis au bord du lit. Il tenait à la main la plume avec laquelle il avait titillé le chancelier de Mégis et dissimulait l'autre sous sa cape posée sur ses genoux. Rimmer avait déplu à Reynolds dès leur première rencontre dans les bois, loin à l'ouest de la ville. Ces mêmes bois, au-delà de Verrou Canyon, où à présent Latigo, l'homme de Farson, avait cantonné le principal contingent de sa troupe. Il faisait grand vent, la nuit où lui et les autres grands chasseurs du cercueil avaient pénétré dans la petite clairière où Rimmer, en compagnie de Langill et de Croydon, les attendait, assis près d'un feu de camp. La cape de Reynolds tourbillonnait autour de lui, et Rimmer l'avait salué d'un « Voici ça et Manto » aux grands éclats de rire des deux autres. Or, ce qui avait été lancé comme une plaisanterie anodine, Reynolds l'avait reçu tout autrement. En maint territoire qu'il avait parcouru, Manto ne signifiait aucunement cape, mais jaquette, ou fiotte, autrement dit, un terme d'argot pour désigner un homosexuel. Que Rimmer, qui n'avait jamais quitté sa province, malgré son vernis de dandy cynique, eût ignoré ce détail linguistique, ne vint pas une seconde à l'esprit de Reynolds. Il croyait savoir quand on l'humiliait, et s'il pouvait rendre la monnaie de sa pièce à qui l'avait ainsi rabaissée, il n'hésitait jamais. Pour Kimba Rimmer, l'heure du règlement de compte avait sonné.
« Reynolds ? Qu'est-ce que vous faites là ? Comment êtes-vous
Tu t'adresses pas « à la bonne personne », répliqua l'homme installé sur le lit. « Il n'y a pas de Reynolds ici, rien que le seigneur Manto. »
Il exhiba alors la main qu'il avait tenue cachée sous sa cape jusque-là. Elle était armée d'un cuchillo finement aiguisé. Reynolds en avait fait l'emplette au marché d'en bas avec cette corvée en tête. Alors il le brandit et plongea la lame de 12 pouces dans la poitrine de Rimmer. Elle y entra jusqu'à la garde, le clouant au lit comme une punaise.
« Punaise de matelas !» songea Reynolds.
Les mains de Rimmer lâchèrent la lampe qui roula au bas du lit et atterrit sur la carpette sans se briser. Sur le mur du fond se dessinait l'ombre distordue de Kimba Rimmer qui se débattait, et celle de son assassin penchée sur lui comme un vautour affamé. Reynolds leva la main qui avait frappé, la tournant de telle sorte que le petit cercueil tatoué en bleu entre le pouce et l'index se retrouve à hauteur des yeux de Rimmer. Il tenait à ce que ce soit la dernière chose que Rimmer voit de ce côté-ci de la clairière.
« Amuse-toi un peu à me ridiculiser maintenant, » dit Reynolds en souriant. « Allez !» « Vas-y, je t'écoute. »
2. Peu avant 5 heures, Thorin, le maire, s'éveilla d'un rêve affreux. Dans son cauchemar, un oiseau à l'œil rose survolait sans trêve la baronnie. Là où son ombre portée touchait, l'herbe jaunissait, les feuilles tombaient des arbres et les récoltes pourrissaient sur pied. L'ombre de l'oiseau transformait sa verte et riante baronnie en une terre de désolation, une terre perdue.
« C'est peut-être bien ma baronnie, mais c'est aussi mon oiseau, » se dit-il, juste avant de s'éveiller.
Pelotonné en une boule frissonnante d'un côté du lit. « Mon oiseau ? Car je l'ai apporté ici, et l'ai laissé sortir de sa cage. » Thorin savait qu'il n'avait plus de sommeil en réserve cette nuit. Il se versa un verre d'eau, le but, puis gagna son bureau, dégageant machinalement sa chemise de nuit de la fente de son vieux cul osseux, ce faisant. Le pompon de son bonnet de nuit balait entre ses omoplates et ses genoux craquaient au moindre de ses pas. Quant au sentiment de culpabilité véhiculé par le rêve, ce qui était fait. Un jour encore, et Jonas et compagnie obtiendraient ce qu'ils étaient venus chercher, en y mettant généreusement le prix. Le jour d'après, ils seraient partis.
Envole-toi au loin, oiseau à l'œil rose et à l'ombre pestilentielle. Retourne-t'en à tire d'aile d'où tu viens et emmène avec toi les grands chasseurs du cercueil.
Thorin soupçonnait qu'au terme de l'année, il serait bien trop occupé à tremper son biscuit pour avoir l'esprit embarrassé par ce genre de choses, ou pour faire des rêves pareils. En outre, les rêves dépourvus d'indices clairs n'étaient que de simples rêves et en rien des présages. Les bottes, dont le bout est raflé, dépassait des tentures du bureau, auraient sans doute pu représenter un indice clair. Mais Thorin ne regarda pas dans leur direction. Ses yeux restèrent fixés sur la bouteille près de son fauteuil favori. Boire du vin clair et sur le coup de 5 heures du matin n'était pas le genre d'habitude à prendre, mais pour une fois, cela ne lui ferait pas de mal. Il avait fait un vilain cauchemar au nom des dieux, et après tout,
« Demain, c'est la moisson !»
dit-il à haute voix, en s'installant près de l'âtre dans son fauteuil à oreillette.
« Je pense qu'un homme peut se déboutonner un peu, la moisson venue. »
Il se versa à boire, le dernier verre qu'il s'octroierait en ce monde. Il toussa quand le feu de l'alcool le frappa à l'estomac et lui réchauffa la gorge en refluant.
« Ah ! C'était mieux, si fait, beaucoup mieux. »
Plus d'oiseaux géants, à présent, plus d'ombres empoisonnées. Il étira les bras et, entrelaçant ses longs doigts noueux, se livra à son vice de les faire craquer.
« Je déteste que tu fasses ça, saleté de squelette ambulant !»
souffla une voix au creux de l'oreille gauche de Thorin. Ce dernier sursauta, et dans sa poitrine, son cœur épousa horriblement ce sursaut. Le verre vide lui échappa des mains, et cette fois, pas de carpette pour amortir sa chute, il se fracassa sur la pierre du foyer. Avant même que Thorin ait pu pousser un cri, Roy de Pape balaya d'un revers de main le bonnet de nuit municipal et, empoignant les vestiges follets de la crinière municipale, tira la tête municipale en arrière. Le couteau de Pape, bien plus modeste que celui utilisé par Reynolds, n'en trancha pas moins proprement la gorge du vieillard. Le sang aspergea d'écarlate la pénombre de la pièce. De Pape lâcha les cheveux de Thorin, retourna près des tentures où il s'était dissimulé et ramassa quelque chose sur le plancher. La vigie de Cuthbert. De Pape revint près du fauteuil et la déposa sur les genoux du maire agonisant.
« L'oiseau !» gargouilla Thorin, la bouche pleine de sang. « L'oiseau !»« Aère !» et « Schnock !»« Malin, toi, de remarquer ça, à un moment pareil, je dirais. »
De Pape projeta à nouveau la tête de Thorin en arrière et l'énucléa proprement en 2 brefs coups de couteau. Un œil atterrit dans l'âtre sans feu. L'autre frappa le mur et glissa derrière soufflet et pincette. Le pied droit de Thorin tremblota brièvement avant de s'immobiliser.
encore une tâche à remplir. De Pape jeta un regard alentour et, apercevant le bonnet de nuit de Thorin, décida que le pompon ferait l'affaire. S'en emparant, il le trempa dans le sang qui mouillait la poitrine du maire et dessina le sigle de l'homme de bien. Un œil sur le mur. « Là !» murmura-t-il en prenant du champ. « Si ça les achève pas, rien sur terre n'y réussira. » Ah, c'est vrai. La seule question pour l'instant sans réponse était de savoir si on pouvait capturer vivant le quatre-têtes de Roland. 3. Jonas avait indiqué exactement à Franlanghill où poster ses hommes, 2 dans l'écurie et 6 autres à l'extérieur, dont 3 dissimulés derrière du vieux matériel rouillé, 2 cachés dans les ruines calcinées de la demeure, et un dernier, Dave Hollis, tapis sur le toit de l'écurie, faisant le guet depuis le fête. Engel fut heureux de constater que les hommes de sa patrouille prenaient leur boulot au sérieux. Ils ne devaient affronter que des gamins, c'était vrai, mais des gamins qui, en une occasion, avaient tenu tête et coiffé sur le poteau les grands chasseurs du cercueil en personne. Le shérif Avery donna l'impression de diriger les opérations, du moins jusqu'à ce qu'ils arrivent à portée de voix du bar K. Alors, Franlanghill, mitraillette en bandoulière et se tenant aussi droit en selle qu'à l'époque de ses 20 ans, prit le commandement. Avery, qui avait l'air nerveux et à bout de souffle, parut plus soulagé qu'offensé de son initiative. « Je vais vous poster comme indiqué, car c'est à mon plan et je n'y trouve rien à redire », avait confié Lengil à ses hommes. Dans l'obscurité, on distinguait à peine leurs visages, leurs traits étant comme brouillés. « Il n'y a qu'une chose que je veux vous dire de mon propre chef. Pas nécessaire qu'on les prenne vifs, mais c'est mieux si on le fait. La baronnie qui a envie qu'elle se charge de les liquider. » Les gens du peuple, quoi, ça liquidera comme ça toute l'affaire. Mais vous pouvez vous asseoir dessus si ça vous chante. Alors moi, je vous dis ceci. S'il y a une bonne raison de tirer, tirez. Mais j'écorche le premier qui tire sans raison valable. Compris ? Pas de réponse. Apparemment, ils avaient reçu le message. « Fort bien », avait conclu Lengil avec un visage de marbre. « Je vous donne une minute pour vous assurer que votre barda est bien empaquetée et on y va. Plus un mot à partir d'ici jusqu'à là-bas. » 4. Roland, Cuthbert et Alain sortirent du baraquement à 6h15 ce matin-là et s'alignèrent sur la véranda. Alain finissait son café. Cuthbert bâillait en s'étirant. Roland boutonnait sa chemise en regardant vers le sud-ouest, dans la direction de la mauvaise herbe. Il ne rêvassait pas à des embuscades, mais à Suzanne et à ses larmes. « Oh, comme je le déteste, ce vieux cas avide !» avait-elle dit. Ses instincts n'étaient pas en éveil. Le Shining d'Alain, qui avait perçu Jonas le jour où ce dernier avait tué leur pigeon voyageur, n'eut pas même un frémissement. Quant à Cuthbert, « Il y a encore un jour de quiétude !» clama le digne garçon à l'adresse du ciel d'aube. « Encore un jour de grâce, encore un jour de silence, brisé seulement par le soupir de l'amoureux et le roulement des sabots des chevaux. Et encore un jour à supporter tes conneries, conclut Alain. On y va ? Ils entreprirent de traverser la cour d'entrée sans percevoir le moins du monde, les 8 paires d'yeux braqués sur eux. Ils pénétrèrent dans l'écurie, passant devant les 2 hommes postés de part et d'autre de la porte. L'un planqué derrière une antique herse, l'autre accroupi à l'abri d'une meule de foin éparpillée. Tous 2 avaient dégainé leur arme. Seul Flash sentait quelque chose d'insolite. Il frappait du sabot, roulant des yeux affolés, et quand Roland tenta de le faire sortir à reculons de sa stalle, il se cabra. tout doux, mon garçon, dit ce dernier, jetant un regard alentour.
La faute aux araignées, je suppose. Il les déteste.
À l'extérieur, Lengil se redressa et fit signe à ses hommes d'avancer. Ils s'approchèrent silencieusement de la porte de l'écurie. Sur le toit, Dave Hollis pointait son arme. Il avait fourré son monocle dans la poche de son gilet pour éviter d'être trahi par un reflet malencontreux. Cuthbert fit sortir sa monture de l'écurie, suivi d'Alain. Roland fermait la marche, tenant la bride courte au hongre nerveux qui piaffait.
« Regardez !»
s'exclama Cuthbert gaiement. Ne s'apercevant toujours pas de la présence des hommes, maintenant exactement dans son dos et celui de ses amis, il montrait un point au nord.
« Un nuage en forme d'ours ! Quel bon présage pour... Halte !
Goujat ! Leur intima Frandling Hill. Bougez plus un doigt de pied, bon Dieu !
Alain esquissa un retournement, plus sous l'effet du choc qu'autre chose, provoquant par là une vaguelette de cliquetis telle une ribambelle de rameaux secs qui craquerait en même temps sous le pas. Le son que rendirent pistolets et mousquetons contre les armes.
Non, Hal ! Fit Roland. Ne bouge pas, non !
Le désespoir lui montait à la gorge comme une giclée de poison. Des larmes de rage lui picotaient les yeux, mais il se tint tranquille. Cuthbert et Alain devaient l'imiter en tout point. S'il bougeait, il serait tué.
« Ne bougez pas, tous les deux !»
leur cria-t-il encore une fois.
« Voilà qui est sagement parlé, mon goujat !»
La voix de Lengil s'était rapprochée. Un bruit multiple de pas l'accompagnait.
« Mets les mains dans le dos !»
Deux ombres encadraient Roland, allongée par la prime lumière du jour. Celle de gauche, massive, devait être projetée par le shérif Avery. Il ne leur offrirait probablement pas de thé blanc aujourd'hui. L'autre ombre devait appartenir à Lengil.
« Dépêchons, Dearborn, si c'est bien là ton nom. Dans le dos, vite. Tout au bas. Des cols étant des flingues braqués sur eux, et si on vous ramène à deux au lieu de trois... La terre s'arrêtera point de tourner.
Ils ne veulent courir aucun risque avec nous, songea Roland avec une bouffée d'orgueil malvenue, escorté d'un arrière-goût d'amusement. Mais ce goût-là était amer, persistant et très amer.
Roland ?
C'était Cuthbert. On décelait de l'angoisse dans sa voix.
Roland, non !
Mais il n'avait pas le choix. Roland mit ses mains derrière son dos. Flash émit un petit hennissement de réprobation, comme pour exprimer la grandissime inconvenance du procédé, avant de s'éloigner au trot et d'aller se poster près du baraquement.
« T'as sentir du métal sur tes poignets !» avertit Langhill. « Esposas !»
De l'acier froid glissa sur les mains de Roland. Il y eut un déclic, et soudain les menottes encerclèrent ses poignets.
« Parfait. À ton tour, fiston.
Prêt pour voir que je veuille !»
La voix tremblante de Cuthbert frisait l'hystérie. Il y eut un bruit sourd, suivi d'un cri de douleur étouffé. Roland se retourna et aperçut Alain, un genou à terre, la main gauche pressée contre son front. Du sang coulait sur sa figure.
« Tu veux que je lui enfile encore un coup ?» demanda Jack White.
Il tenait un vieux pistolet par le canon, crosse levée.
« Je peux, tu sais ? Bon matin, ça me chauffe le bras, comme qui dirait. Non ! »
Cuthbert était déchiré entre l'horreur et un sentiment proche du chagrin. Derrière lui, trois hommes en randonnion ne perdaient pas une miette du spectacle.
« Alors, tu vas être un bon garçon et mettre sagement tes mains derrière ton dos. »
Cuthbert s'exécuta, refoulant ses larmes. Les esposas lui furent passés par l'adjoint Bridger. Les deux autres remirent Alain sur ses pieds. Il chancela quelque peu avant de se stabiliser. On le menotta. Il échangea un regard avec Roland. Alain eut un pauvre sourire. D'une certaine manière, ce fut le pire moment de cette terrible matinée d'embuscade. Rolante leur adressa un signe de tête et se fit une promesse. Ils ne seraient plus jamais capturés de la sorte, pas même s'ils vivaient un millier d'années. Lang Hill arborait une grande écharpe ce matin, au lieu de sa cravate lacée habituelle. Mais d'après Rolante, il était engoncé dans la même redingote qu'il portait à la soirée de bienvenue du maire, déjà si lointaine. À ses côtés, bouffi de sa propre importance, le shérif Avery exsudait l'excitation et l'anxiété.
« Les garçons, dit le shérif, je vous arrête pour avoir violé les lois de la baronnie. Pour être plus spécifique, c'est accusé de trahison et de meurtre. »
« Et qui avons-nous assassiné ?» demanda Alain d'une voix douce. À cette question, l'un des membres de la patrouille éclata d'un rire dont Rolante n'aurait su dire s'il était scandalisé ou cynique.
« Le maire est son chancelier, comme vous le savez parfaitement, » répondit Avery. « À présent,
comment pouvez-vous faire une chose pareille ?» demanda Rolante avec curiosité. Il s'adressait à Lang Hill.
Mégis est l'endroit où vous êtes né. J'ai vu reposer dans le cimetière la longue lignée de vos ancêtres. Comment pouvez-vous faire une chose pareille à votre contrée natale, ça et Lang Hill?
Pour l'intention de rester là, palabré avec toi, fit Lang Hill.
Il jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Roland.
Alvarez, va me chercher ce calasson. Des petits futés comme cette bande-là devraient point avoir de problème à se tenir à cheval, les mains liées dans...
« Non, répondez-moi !» s'interposa Roland.
« Ne nous cachez rien, Silent Hill. C'est avec vos amis que vous êtes venus ici. Il n'y a pas un seul qui ne fasse pas partie de votre cercle. Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Vous violeriez votre propre mère si vous la surpreniez dans son sommeil, la jupe retroussée ?»
La bouche de Lang Hill se tordit. Ni de honte, ni d'embarras, mais d'un dégoût momentanément pudibond. Puis le vieux Ranchero regarda Avery.
On leur enseigne à parler joliment, hein, Gilead, hein?
Avery, qui était armé d'un fusil, s'avança alors vers le pistolero, dûment menotté, crosse en avant.
Je vais t'apprendre, moi, comment faut s'adresser à un membre de la gentry, si fait. Je vais te lui faire sauter les dents de la bouche, t'as qu'à moi à dire, Fran.
Lang Hill le retint d'un air las.
Sois pas stupide. Je t'ai un poil ramené couché en travers de la selle, à moins qu'il soit mort.
Avery abaissa son fusil. Lang Hill se tourna vers Roland.
Tu vivras point assez vieux pour profiter de mes conseils, Dearborn, dit-il. Mais on va t'en donner un tout de même. Faut toujours être du côté des vainqueurs dans ce monde et savoir comment souffle le vent pour s'apercevoir quand il tourne.
Tu as oublié le visage de ton père, sale vermine rampante, prononça très clairement Cuthbert. Cela piqua Lang Hill plus au vif que la vanne lancée par Roland sur sa mère, ce que trahit la soudaine coloration de ses joues burinées.
Foutez-les à cheval ! Cria-t-il. Je veux qu'on les boucle sur l'heure.
5. Roland fut planté si durement sur la selle de Flash qu'il faillit voltiger de l'autre côté. Ce qui serait arrivé si Dave Hollis n'avait pas été là pour affermir son équilibre et glisser la botte de Roland dans l'étrier. Dave, ce faisant, adressa au pistolero un sourire nerveux, un peu gêné.
Je regrette de vous voir ici, dit Roland avec gravité.
Et moi d'être obligé de m'y trouver, répartit l'adjoint. Si le meurtre était le but que vous poursuiviez, j'aurais préféré que vous le mettiez à exécution plus tôt et que votre ami n'ait point eu l'arrogance de signer ce forfait de sa carte de visite, ajouta-t-il en désignant Cuthbert du chef.
Roland n'avait pas la moindre idée de ce à quoi faisait référence l'adjoint Dave, mais aucune importance. Cela devait faire partie du coup monté auquel nul de ces hommes n'ajoutait beaucoup de foi. Dave inclus, apparemment. Même si, supposa Roland, Ils viendraient à y croire dans quelques années, comme si c'était parole d'évangile, et raconteraient à leurs enfants et petits-enfants ce jour de gloire où ils avaient fait partie de la patrouille à cheval et capturé les traîtres. Le pistolero usa de ses genoux pour faire virer Flash, et là, près du portail qui séparait la cour du barca du chemin menant à la grand-route, se tenait Jonas. Il montait un bai à large poitrail, coiffé du feutre vert d'un meneur de chevaux, et emmitouflé dans un vieux cache-poussière gris. Un fusil dépassait de la housse fixée près de son genou droit. Il avait repoussé le pan gauche de son cache-poussière pour exposer la crosse de son revolver. Les cheveux blancs de Jonas, qu'il avait négligé d'attacher aujourd'hui, s'étalaient sur ses épaules. Ôtant son feutre, il salua Roland fort courtoisement.
« Ça fut une belle partie, » dit-il. « Vous avez très bien joué pour quelqu'un qui t'était encore sa mère il y a peu. »
« Et toi, vieillard, tu as dépassé la limite d'âge, » répliqua Roland. Jonas sourit.
« Tu porterais remède si tu pouvais, je t'entends bien. Mais je crois... »
Il reporta son regard sur Langhill.
« Confisquez-leur leurs joujoux, femme. Cherchez surtout des couteaux, ils ont des pistolets, mais pas sur eux. D'ailleurs, j'en sais là-dessus plus qu'ils ne pensent. N'oubliez pas la fronde du plaisantin. Surtout pas ça, au nom des dieux. Il n'y a pas si longtemps qu'il aurait aimé fracasser la tête de Roy avec...
« C'est de poils de carotte que vous parlez ?» demanda Cuthbert. Son cheval dansait sous lui, et Burt oscillait d'avant en arrière et de droite à gauche, comme un écuyer de cirque pour éviter d'être désarçonné. « Le plaisantin, il n'aurait jamais raté sa tête, ses couilles peut-être, mais pas sa caboche !»«
Probable !»
tomba d'accord Jonas, tandis qu'on délestait Roland de son arc et de ses lances. La fronde était fixée à la ceinture de Cuthbert, dans le dos et dans un étui qu'il avait confectionné tout spécialement de ses mains. Roy de Pape avait été bien inspiré de ne pas avoir mis Burt à l'épreuve, d'après Roland. Burt pouvant cueillir un oiseau en plein vol à 60 mètres. Une bourse pleine de billes d'acier pendait au côté gauche du garçon. Bridger fut également main basse dessus. Pendant que tout cela allait bon train, Jonas ne cessa de gratifier Roland de son plus aimable sourire.
« C'est quoi ton vrai nom, gamin ? Allez, à confesse. Il n'y a plus de mal à ce que tu parles maintenant. T'enfourcheras bientôt la jolie dame à la faux. Tu le sais, comme moi. »
Roland ne broncha pas. Langhill lança un regard à Jonas, l'interrogeant du sourcil. Jonas haussa les épaules, puis désigna d'un mouvement de tête la direction de la ville. Langhill opina et tisonna Roland d'un long doigt crevassé. « Hey, en route, mon garçon !» Roland pressa les flancs de Flash. Sa monture se dirigea au petit trot vers Jonas. Une certitude envahit soudain Roland. À l'instar de ses meilleures intuitions tombant pile, elle provenait de nulle part et de partout. Absente la seconde d'avant, elle se trouvait là, celle d'après, vêtue de pied en cap. « Qui t'a expédié dans l'ouest ? Sale larve » lança-t-il à Jonas en passant près de lui. « Ça peut pas être Corte. T'es trop vieux pour ça. Mais ne serait-ce pas son père ?» L'allure d'amusement teintée d'ennui s'éteignit dans l'œil de Jonas, fut balayée, plutôt, comme si on l'avait frappé au visage. Un court et stupéfiant moment, le vieillard à cheveux blancs redevint un enfant, honteux, vexé comme un poux, atteint au plus profond. « Pour sûr ? Le pas de Corte ?
Tes yeux t'ont trahi. Te voilà maintenant au bord de la mer limpide, sauf qu'en réalité tu es dans l'ouest. L'âme d'un homme tel que toi ne peut jamais quitter l'ouest. »
Jonas dégaina avec une telle célérité que seul l'œil extraordinaire d'un Rolante pouvait percevoir son mouvement. Un murmure parcourut le groupe d'hommes derrière eux, en partie sous le choc, mais surtout par crainte superstitieuse.
« Jonas, faites point l'imbécile, » grogna Lenghil. « N'allez point me tuer ces faucons après qu'on a pris notre temps, ils risquent de les encapuchonner et de leur lier les pattes. Non mais !»
Jonas parut ne pas entendre. Il avait les yeux hagards et sa bouche cousue tremblait aux commissures.
« Messire des paroles, oui, le diamant, »
dit-il d'une voix basse et rauque.
« T'as jamais eu autant besoin de les mesurer. Encore une toute petite pression sur la détente et le coup bas à la seconde. »«
Vas-y, descends-moi, » reprit Roland.
Relevant la tête, il regarda Jonas de haut.
« Tire donc, exilé, tire donc, pile cloporte, tire donc, ratage ambulant. Celui qui vit en exil mourra en exil. »
Un instant, il crut que Jonas allait tirer pour de bon. Et Roland trouva que mourir lui siérait serait une fin acceptable après la honte de s'être fait prendre aussi facilement. Suzanne avait déserté ses pensées. Il n'y eut ni souffle, ni cri, ni mouvement durant ce laps de temps. Tout était suspendu. Les ombres des hommes, à pied ou à cheval, qui assistaient à cet affrontement, s'imprimaient à fleurs de poussière. Puis Jonas relâcha le chien de son arme, qui reglissa dans son étui.
« Emmenez-les en ville et bouclez-les »
ordonna-t-il à Lenghil.
« À mon arrivée, je ne veux pas qu'on ait touché à un seul de leurs cheveux. Si je peux me retenir de tuer celui-là, vous pouvez vous abstenir de molester le reste de la bande. Disposez maintenant. »
« On se bouge. » fit Lenghil.
Sa voix avait perdu de son autorité factice, était maintenant celle d'un homme qui comprend, mais un peu tard, qu'il a acheté des jetons pour une partie dont les enjeux seront, selon toute probabilité, bien trop élevés pour lui. Ils s'ébranlèrent. Roland se retourna une dernière fois. Le mépris que Jonas lut dans les yeux froids du jeune homme le cingla davantage que les coups de fouet qui lui avaient balafré le dos, il y avait des années de cela, à Garlan. 6. Une fois qu'ils furent hors de vue, Jonas entra dans le baraquement, retira la lame du parquet qui dissimulait leur petit arsenal, et n'y trouva que deux revolvers. La paire de 6 coups aux crosses noires, les armes de Dearborn à coup sûr, avait disparu.
« Tu es dans l'Ouest, l'âme d'un homme tel que toi ne peut jamais quitter l'Ouest. Celui qui vit en exil mourra en exil. »
Les mains de Jonas s'activèrent et désassemblèrent les revolvers que Cuthbert et Alain avaient fait suivre dans l'Est. Alain n'avait jamais porté les siens, sauf à l'entraînement, au champ de tir. De retour à l'extérieur, Jonas en dispersa les pièces aux 4 points cardinaux. Il les lança aussi loin et aussi fort qu'il put, tâchant par là de se délivrer de ce calme regard bleu et d'atténuer le choc d'avoir entendu ce qu'il avait cru jusqu'à aujourd'hui que nul homme ne savait. Roy et De Pape le soupçonnaient, mais même eux n'en avaient jamais été certains. Avant le coucher du soleil, tout le monde à Mégis saurait qu'Eldred Jonas, le régulateur à crinière blanche et au cercueil tatoué sur la main, n'était rien d'autre qu'un pistolero manqué. Celui qui vit en exil mourra en exil.
Peut-être pas
fit-il, regardant l'orange calciné sans vraiment le voir.
« Mais je vivrai plus longtemps que toi, Dearborn Junior. Et quand je mourrai, tes os rouilleront depuis longtemps sous la terre. »
Il enfourcha sa monture et lui fit tourner bride, tirant méchamment sur les rênes. Il se dirigea vers Sidgo, où Roy et Clay l'attendaient, mais il eut beau mener un train d'enfer, il ne distança pas les yeux de Roland. 7.
Réveillez-vous! Réveillez-vous, Sai! Réveillez-vous! Réveillez-vous!
D'abord, ces mots semblèrent venir de très loin, se propageant magiquement jusqu'au lieu plongé dans le noir où elle reposait. Même quand la voix fut relayée par une main qui la secoua rudement et que Suzanne sut qu'elle devait s'éveiller, la lutte fut longue et rude. Depuis des semaines, elle n'avait pas joui d'une bonne nuit de sommeil et s'était attendue à l'appareil en se mettant au lit la veille. La veille, tout particulièrement. Elle était demeurée éveillée dans sa luxueuse chambre à coucher de front de mer, à tourner et retourner en tous sens les éventualités, aucune nantie d'une issue favorable, qui assaillait son esprit. La chemise de nuit qu'elle portait, lui remontant sur les hanches, venait se tasser au creux de ses reins. Quand elle se leva pour utiliser la chaise percée, elle en profita pour ôter l'incommode et détestable chose, la jeta dans un coin et se glissa nu comme un ver dans sa couche. Ne plus avoir à supporter cette lourde chemise de nuit en soie avait suffi. Elle avait sombré presque aussitôt. Et, en l'occurrence, sombrer était bien le mot. Son sommeil s'apparentait à une chute dans une profonde faille terrestre d'où pensée et rêve étaient bannis. Et à présent, cette voix indésirable, doublée d'un bras intrus, la secouant si fort que sa tête balait de ci de là sur l'oreiller. Suzanne tenta de l'esquiver, remontant les genoux contre sa poitrine et proférant des protestations inarticulées. Mais le bras ne voulut rien savoir. Les secousses reprirent de plus belle. La voix querelleuse ne cessa pas ses cris aériens. « Réveillez-vous, Sai, debout, au nom de la tortue et de l'ours, allons, debout !» La voix de Maria. Suzanne ne l'avait point reconnue de prime abord, tant Maria était bouleversée. Jamais Suzanne ne l'avait vue dans un tel état, ni ne s'était attendue à l'y voir. Et pourtant, elle y était. À en juger par sa voix, la petite bonne frisait l'hystérie. Suzanne se redressa sur son séant. Un instant, assaillie de tant de données, toutes erronées, elle fut incapable de bouger. Le duvet sous lequel elle s'était blottie bascula sur ses genoux, dénudant ses seins, et elle ne put rien faire d'autre que le pinceauter du bout des doigts. Le premier détail détonnant à la frapper fut la luminosité. Le jour coulait à flots par les fenêtres, comme jamais, car, prit-elle conscience, il n'était pas dans ses habitudes de s'attarder autant dans cette chambre. Mais Dieu, il devait être au moins 10 heures, sinon plus. L'autre détail qui clochait, c'était le tintamarre venant d'en bas. La maison du maire était d'ordinaire un endroit paisible à cette heure-ci. Jusqu'à midi, mis à part les casa vaqueros menant les chevaux à l'exercice matinal, le « oui, oui, oui » du balai de Miguel nettoyant la cour et le « boum » et le « cha » continu des vagues, on n'entendait rien, ou presque. Mais aujourd'hui, ce n'était que cris, jurons, galops de chevaux et de temps à autre, les dents de scie d'un éclat de rire étrange. Quelque part à l'extérieur de sa chambre, pas dans cette aile peut-être, mais tout près, Suzanne perçut le tambourinement de pieds bottés qui couraient. Mais le plus perturbant de tout, c'était Maria elle-même. Son teint olivâtre avait pris une nuance gris-cendre et ses cheveux, si bien coiffés d'habitude, étaient défaits et tout emmêlés. D'après Suzanne, seul un tremblement de terre aurait pu causer un désordre semblable dans sa toilette. Et encore. « Maria, qu'y a-t-il ? Il faut vous en aller, Sai. Vous n'êtes peut-être plus en sécurité à front de mer à partir de maintenant. Il vaudrait mieux que vous soyez chez vous. Quand je ne vous ai pas vu tantôt, j'ai cru que vous étiez déjà retourné là-bas. Vous avez choisi le mauvais jour pour faire la grasse matinée. »« M'en aller ? » répéta Suzanne. Elle remonta lentement le duvet jusqu'au bout de son nez en dévisageant Maria de ses yeux bouffis de sommeil tout écarquillés. « M'en aller, mais Qu'est-ce que tu veux dire ? En passant par derrière ?
Maria arracha le duvet d'entre les doigts gourds de sommeil de Suzanne, qui fut dénudée jusqu'aux pieds cette fois.
« Comme vous l'avez déjà fait, maintenant, mademoiselle, tout de suite, habillez-vous vite et partez. Si fait, on a mis ces garçons en prison, mais si jamais ils ont des amis, et qu'ils reviennent vous tuer aussi, tant qu'ils y sont !»
Suzanne, qui s'était levée tant bien que mal, eut tout à coup les jambes coupées et retomba assise sur le lit.
« Quels garçons ? » murmura-t-elle. « Ils ont tué qui ? Quels garçons qui ont tué qui ?»
Ce qui était loin d'être correct, grammaticalement parlant. Mais Maria comprit ce qu'elle voulait dire.
« Dearborn et ses acolytes !» répondit-elle.
« Qui ont-ils soi-disant tué ?»«
Le maire et le chancelier !»
Maria regardait Suzanne avec sympathie, tout affolée.
« Maintenant debout, je vous dis, allez-vous-en, cet endroit est devenu loco !»«
Mais ils n'ont pas fait une chose pareille !» dit Suzanne, se retenant de justesse d'ajouter « Ça ne faisait point partie du plan.
Cy Thorin et Cy Rimmer sont morts tout de même, qui que ce soit qui a fait le coup. »
Il y eut d'autres cris en bas suivis d'une petite explosion qui n'avait rien d'un tir de pétard. Maria tourna les yeux dans cette direction, puis commença à lancer ses habits à Suzanne.
Les yeux du maire, ils les lui ont sortis de la tête au couteau.
Ils n'ont pas pu faire ça, Maria, je les connais.
« Moi, je les connais point du tout et je m'en soucie mis. C'est pour vous que j'ai du souci. Habillez-vous et partez, je vous répète, le plus vite que vous pourrez. » Que leur est-il arrivé ?
Une idée affreuse traversa Suzanne qui bondit sur ses pieds en voyant valser ses vêtements autour d'elle. Elle attrapa Maria par les épaules.
« On ne les a point tués !»
Suzanne secoua la petite bonne.
« Dis-moi qu'on ne les a point tués !» Je crois point. On a crié tant et plus, il y a eu des rumeurs concourues dans tous les coins, mais je crois qu'ils sont juste en prison. Seulement,
elle n'eut pas besoin d'achever sa phrase. Ses yeux se détournèrent de ceux de Suzanne à qui ce mouvement involontaire, s'ajoutant à la bruyante confusion d'en bas, révéla tout le reste. On ne les avait pas encore tués, soit, mais Hart Thorin, mère très aimée de ses concitoyens, descendait d'une très ancienne famille, alors que Roland, Cuthbert et Alain n'étaient au mieux que des étrangers. Point encore tué. Or, demain, c'était la fête de la moisson, et demain soir, le feu de joie. Suzanne commença à s'habiller le plus vite qu'elle put. 8. À peine Reynolds, qui accompagnait Jonas depuis plus longtemps que de pape, eut-il jeté un coup d'œil à la silhouette s'avançant vers eux au petit galop entre les dérives squelettiques, qu'il se tourna vers son partenaire.
« Elle lui pose pas de questions. Il n'est pas d'humeur à répondre à des questions idiotes ce matin. »« Il se t'en sait. T'occupe. Fais gaffe à tenir ton putain de clapet fermé. »
Jonas tira sur les rênes de sa monture à leur hauteur. Il était avachi sur sa selle, pâle et songeur. Son apparence fit monter une question aux lèvres de Roy de Pape, en dépit de la mise en garde de Reynolds.
« Ça va, Eldred ? Pourquoi ? Y a quelqu'un pour qui ça va ?»
répondit Jonas, qui redevint muet. Dans leur dos, les rares stations de pompage en activité à Sidgo piaillaient sans relâche. Jonas s'ébroua enfin et se redressa un tantinet sur sa selle.
« Nos garnements doivent être stockés en magasin à l'heure qu'il est. J'ai dit à Lingil et à Avery de tirer deux fois deux coups de feu si ça tournait au vinaigre, et je n'ai rien entendu de tel jusqu'à maintenant. »
« Nous non plus, » Eldred s'empressa de préciser de pape.
« Rien qui ressemble à ça. »
Jonas fit la grimace.
« Feriez comment avec ce boucan, crétin ?»
De Pape se mordit les lèvres et s'apercevant tout à trac que son étrier gauche devait être ajusté, se pencha dans ce but.
« Personne ne vous a surpris en train de... les gars ?»
demanda Jonas.
« Ce matin, je veux dire, quand vous avez expédié Rimmer et Thorin, y a-t-il une chance qu'on ait vu... « L'un de vous ?»
Reynolds secoua négativement la tête pour deux.
Ça a été fait aussi proprement que possible. »
Jonas opina comme si le sujet ne présentait pour lui qu'un intérêt relatif. Puis se retourna pour englober du regard le pétroléum et les dériques mangés par la rouille.
« C'est peut bien que les gens aient raison, »
fit-il d'une voix à peine perceptible.
« C'est pourrait bien que ceux du vieux peuple étaient des démons. »
Il se tourna vers eux.
« C'est nous qui sommes les démons aujourd'hui. Pas vrai, Clay ?»«
C'est comme tu penses, Eldred, » fit Reynolds.
« Je dis ce que je pense. C'est nous les démons d'aujourd'hui. Par Dieu, on agira comme tels. » « Qu'est-ce qui se passe entre Quint et le groupe là-bas ?»
Il inclina la tête vers la pente forestière où on avait tendu l'embuscade.
« Sont toujours là à attendre ton signal ?» répondit Reynolds.
« Plus besoin d'eux, maintenant. »
Il gratifia Reynolds d'un regard noir.
« Ce diabon n'est rien qu'un sale morveux, un ramenard de première. J'aimerais bien être à Hambry demain soir, rien que pour lui balancer une torche entre les pieds. J'ai failli le laisser roi de mort ou Barca. Si ça n'avait pas été la ville, il y restait. » Un sale petit ramenard, voilà tout ce qu'il est.
Plus il parlait, plus il se tassait sur lui-même. Son visage s'assombrissait à vue d'œil, tel un paysage quand des nuées d'orage masquent le soleil. De pape, son étrier remis en place, interrogea Reynolds d'un coup d'œil nerveux. Ce dernier resta sans réaction. À quoi bon réagir? Si Eldred devenait fou, et Reynolds l'avait déjà vu piquer des crises de ce genre par le passé, il n'aurait aucun moyen de s'extraire de sa zone de tuerie à temps. « On a encore pas mal de boulot, Eldred. » Reynolds s'exprima calmement, mais cela porta. Jonas se ressaisit. Il ôta son chapeau, l'accrocha au pommeau de sa selle comme à un porte-manteau et se passa la main dans les cheveux, machinalement.
« Ouais, pas mal de boulot, t'as raison. Descends là-bas et dis à Quint d'envoyer chercher des bœufs pour tirer les deux dernières citernes pleines jusqu'à la roche suspendue. Faudrait qu'il se garde quatre hommes pour les accrocher et les emmener à Latigo. Les autres peuvent vaquer. »
Reynolds jugea qu'à présent, il pouvait sans risque poser une question. « Quand le reste des hommes de Latigo est attendu là-bas ?»«
Quels hommes ?» ricana Jonas méprisant. « Si seulement, mon cousin, le reste des blancs-becs de Latigo ralliera à la roche suspendue au clair de lune !» Toutes oriflammes déployées, sans doute au bénéfice des coyotes et autres chiens du désert qui en auront grand effroi. Ils seront prêts à servir d'escorte demain matin à 10 heures, je dirais. Quoique, si ces gaillards-là sont tels que je m'y attends, les conneries vont pleuvoir. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas tellement besoin d'eux, de toute façon. On dirait que les choses se présentent bien. Va là-bas maintenant, mets-les au boulot, puis reviens me trouver le plus vite possible. »
Jonas, se tournant, regarda le renflement bosselé des collines au nord-ouest.
« Car nous aussi, on a du boulot, » dit-il. « Plus vite on commencera, plus vite en aura fini. J'ai plus qu'une envie, brosser mes bottes et mon chapeau de cette saloperie de poussière de Mégis au plus tôt. J'apprécie plus du tôt, du tôt.
9. Teresa Maria Dolores O'Shiven était une jolie femme rondelette de 40 ans, mère de 4 enfants, femme de Peter, un vaquero de tempérament jovial. Elle était aussi drapière au marché d'en haut. Nombre des plus jolies et délicates ornementations de front de mer étaient passées entre les mains de Teresa O'Shiven, dont la famille était tout à fait à son aise. Bien que son mari ne soit qu'un coureur de prairie, le clan des O'Shiven appartenait à ce qu'en d'autres temps et lieux on eût appelé la classe moyenne. Ses deux aînés avaient déjà quitté le domicile familial, et l'un d'eux, la baronnie. Le troisième, par rang d'âge, était tout feu tout flamme à l'idée d'épouser les délices de son cœur au terme de l'année. Seule la plus jeune soupçonnait que Ma ne tournait pas rond, tout en étant loin de se douter à quel point Teresa frôlait la folie obsessionnelle intégrale.
« Ça va point tarder !» songeait Réa, guettant avidement Teresa dans le cristal. Il va s'y mettre bientôt, mais il faut d'abord qu'elle se débarrasse de la gamine.
Il n'y avait pas d'école la semaine de la moisson, et les boutiques n'ouvraient que quelques heures dans l'après-midi. Aussi Teresa expédia-t-elle sa cadette, porteuse d'un pâté, présent de la moisson à une voisine, supputa Réa, dans la capacité de déchiffrer les instructions silencieuses que Teresa donnait à sa fille tout en lui enfonçant un bonnet tricoté sur les oreilles. Et il ne devait point s'agir non plus d'une proche voisine. Elle avait besoin de temps, Teresa Maria Dolores O'Shiven, de temps pour les corvées ménagères. Sa maison, de dimension imposante, était pourvue de multiples recoins nécessitant un nettoyage en règle. Réa gloussa, et son gloussement vira à une crise de toux caverneuse. Dans son coin, Moisy fixait la vieille tel un spectre. Même loin d'être devenu un squelette ambulant à l'image de sa maîtresse, Moisy n'avait pas du tout bonne mine. La fillette, mise dehors avec le pâté sous le bras, eut le temps de lancer à sa mère un regard inquiet avant qu'elle ne lui claque la porte au nez.
« Maintenant, croissa Réa, ces recoins t'attendent, femelle, à genoux et au boulot. »
Teresa alla d'abord à la fenêtre. Quand elle se trouva satisfaite de ce qu'elle vit, sa fille qui franchissait la barrière et descendait la grand-rue, apparemment, elle revint dans la cuisine, gagna la table près de laquelle elle s'attarda, les yeux rêveurs perdus dans le vague.
« Pas de ça ! Pas le moment ! Non !»
s'écria Réa avec impatience. Elle ne voyait plus sa crasseuse masure, ne sentait plus ses fétides remugles. Elle avait pénétré dans l'arc-en-ciel du magicien. Elle se trouvait auprès de Teresa O'Shiven, dont le cottage avait les coins et recoins les plus propres de tout Mégis, peut-être même de tout l'entre-deux-mondes.
« Presse-toi, femelle !»
hurla presque Réa.
« Attaque ton ménage !»
Comme si elle l'avait entendu, Teresa déboutonna sa robe d'intérieur qu'elle alla déposer soigneusement sur le dossier d'une chaise après l'avoir ôtée. Puis, retroussant au-dessus du genou sa chemise, propre et reprisée, elle alla se mettre à quatre pattes dans le coin.
« C'est ça, Mikolaston !»
s'écria Réa, qui manqua s'étouffer sous un afflux de flegme, son rire le disputant à sa toux grasse.
« Vas-y, nettoie, et vivement !»
Teresa O'Shiven étira son cou au maximum, ouvrit la bouche, tira la langue, et se mit à lécher le sol dans le coin. Elle lui donnait des coups de langue comme Moisy lapait son lait. Réa jouissait du spectacle, se frappant le genou et poussant des vivas.
Son visage devenait de plus en plus congestionné, tandis qu'elle se balançait de plus en plus fort.
Ah ! Il n'y avait pas à dire. Teresa était sa préférée, si fait, aucun doute là-dessus. À partir de maintenant, elle rampait sur les genoux et sur les mains, le cul en l'air, pour jouer de la langue dans tous les coins, priant une obscure divinité, pas même Jésus, le Dieu fait homme, qu'elle lui pardonne qui savait quoi, tout en accomplissant sa tâche, sa pénitence. Parfois, elle récoltait des échardes dans la langue et devait s'interrompre pour cracher du sang dans l'évier. Jusqu'à présent, un sixième sens l'avait toujours fait se remettre debout et renfiler sa robe avant le retour d'un membre de sa famille. Mais Réa savait que tôt ou tard l'obsession maniaque de Teresa l'entraînerait trop loin et qu'on la prendrait sur le fait. Peut-être qu'aujourd'hui serait le jour J. La gamine reviendrait peut-être plus tôt que prévu pour dépenser quelques sous en ville et découvrirait sa mère à genoux en train de récurer avec sa langue. Oh, liesse et rareté, comme Réa avait envie de voir ça, comme elle se languissait de...
Tout à coup, Teresa O'Shiven avait disparu. L'intérieur si bien tenu de sa maisonnette avait disparu, tout avait disparu, derrière les rideaux tirés de la lumière rose changeant. Pour la première fois depuis des semaines, le cristal du magicien était redevenu opaque. Réa, le saisissant entre ses doigts décharnés aux ongles démesurés, le secoua comme un prunier.
« Qu'est-ce qui te détraque, boule de malheur ? Qu'est-ce qui te rend patraque ?»
La boule de cristal pesait lourd et les forces de Réa déclinaient. Après lui avoir imprimé deux ou trois violentes secousses, elle glissa entre ses doigts. Réa la berça en tremblant contre les vestiges aplatis de ses seins.
« Là, là, amour mien !»
roucoula-t-elle.
« T'auras qu'à revenir quand tu seras prête, si fait !» Réa a un peu perdu son calme. Mais elle l'a retrouvé maintenant. Elle voulait point te brusquer pour rien au monde. Elle t'aurait laissé tomber. Alors, t'as juste à...
Elle s'interrompit et, penchant la tête, tendit l'oreille. Des chevaux approchaient. Non, ils n'approchaient point. Ils étaient déjà ici. Trois cavaliers à ce qu'elle entendait. Ils étaient arrivés en catimini, profitant de son égarement. Étaient-ce ces garçons de malheur ? Réa serra le cristal contre sa poitrine, les yeux hagards, la bave aux lèvres. Ses mains étaient à présent si frêles que la lueur rose les rendait translucides, faisant ressortir en noir les fétus de ses os.
« Réa ! Réa du chaos !»
Non, ce n'étaient pas les garçons.
« Sors donc ! Nous remettre ce qui t'a été confié. »
C'était bien pire.
« Farson réclame ce qui lui appartient. Nous sommes venus le récupérer. »
Ce n'étaient pas les garçons, mais les grands chasseurs du cercueil.
« Tu n'auras jamais, espèce de sale connard à cheveux blancs. »
murmura-t-elle entre ses dents.
« Tu ne me le revendras jamais !»
Ses yeux lançaient de ci de là de brefs regards furtifs. Crâne échevelé et babine tremblante, elle avait tout d'un coyote malade traqué dans son dernier arroyo. Elle baissa les yeux vers la boule de cristal et un gémissement plaintif lui échappa. Maintenant, même la lumière rose avait disparu. La sphère était aussi sombre que l'orbite d'un cadavre. 10. Un hurlement suraigu s'éleva de la masure. De Pape se tourna vers Jonas, ouvrant de grands yeux, saisi de chair de poule. L'être qui avait proféré ce cri semblait n'avoir rien d'humain.
Aïe !
Héla Jonas de nouveau.
« Apporte-le ici, femme, et remets-le-nous » J'ai pas le temps de jouer à cache-cache avec toi. »
La porte de la masure s'ouvrit à la volée. De Pape et Reynolds dégainèrent à l'instant même où apparaissait la mégère, clignant des yeux sous l'éclat du soleil comme une créature ayant passé sa vie entière dans l'obscurité d'une grotte. Elle tenait à bout de bras, au-dessus de sa tête, le joujou préféré de John Farson. Il y avait dans la cour pléthore de fragments de roche contre lesquels le précipiter, et même si Réa visait mal et les ratait tous, il n'en volerait pas moins en éclats. Ce qui serait fâcheux. Jonas ne le savait que trop bien. Il y avait certaines personnes qu'on ne pouvait se contenter de menacer. Il avait tellement concentré son attention sur les gamins, dont la capture, ô ironie du sort, avait été simple comme bonjour, qu'il ne lui était jamais venu à l'esprit de s'inquiéter de cette partie de sa mission. Et Kimba Rimmer, celui qui avait suggéré que Réa serait la meilleure gardienne de l'arc-en-ciel de Merlin, était mort, après tout. Ne pourrait-il en jeter le blâme sur Rimmer si jamais les choses tournaient mal, ici, sur le Chaos ? Puis, histoire d'empirer encore un peu les choses, alors qu'il se disait qu'elles avaient atteint l'extrême ouest sans basculer pour autant les froids confins de la terre, Jonas entendit De Pape armer le chien de son pistolet.
« Range-toi, espèce d'imbécile !»
gronda-t-il. « Mais regarde-la !» gémit presque De Pape. « Regarde-la, Eldred !» Il ne faisait pas autre chose. La créature en robe noire paraissait porter, en guise de collier, la dépouille d'un serpent en putréfaction. Elle était si maigre qu'on aurait dit un squelette ambulant. Ne subsistait plus sur la peau du crâne qui pelait que de rares touffes de cheveux. Son front et ses joues n'étaient que plaies, et elle avait comme la marque d'une piqûre d'araignée au coin de sa bouche. Jonas songea qu'il pouvait aussi s'agir de la fleur purpurine du scorbut, mais que ce soit l'une ou l'autre lui importait peu. Son principal souci, c'était le cristal que la mourante, saisie de frissons, brandissait entre ses longs doigts griffus au-dessus de sa tête. 11. L'éclat du soleil éblouissait Réa à tel point qu'elle n'aperçut pas l'arme braquée sur elle. Et quand elle retrouva sa vision normale, De Pape avait déjà rengainé. Elle passa en revue les hommes qui lui faisaient face. Le rouquin à lunettes, l'individu à la cape et le vieux Jonas à la crinière blanche. Et laissa échapper un rire rauquissime. Dire qu'elle avait eu peur d'eux, de ces si puissants grands chasseurs du cercueil. Mais au nom des dieux, pourquoi donc? Ce n'étaient que des hommes comme les autres, de simples mortels. Et elle avait battu à plate couture leur pareil, sa vie durant. Oh, bien sûr, campés sur leurs ergots, ils étaient persuadés de régner sur le poulailler. Personne dans l'entre-deux-mondes n'accusait l'un d'entre eux d'avoir oublié le visage de sa mère. Mais au fond, ce n'était que de pauvres diables, émus aux larmes par une triste mélodie, mis complètement hors de combat par une poitrine féminine dénudée, et par-dessus tout, sujet à être manipulé pour s'être estimé fort, puissant et sage. Le cristal s'était assombri. Elle avait beau détester cette opacité, elle lui avait éclairci d'autant les idées.
« Jonas !»
Elle a-t-elle.
« Eldred Jonas !»« Je suis là, devant toi, la vieille mère !»
dit-il.
« Que tes journées soient longues et tes nuits plaisantes. Laisse là tes souhaits, le temps presse !»
Elle avança de quelques pas, puis s'immobilisa, le cristal toujours au-dessus de la tête. À ses pieds, une grosse pierre grise saillait du sol broussailleux. Elle la regarda, puis releva les yeux vers Jonas. Ce que cela impliquait, même à formuler, était manifeste.
« Qu'est-ce que tu veux ?»
demanda Jonas.
« Le cristal s'est assombri !»
dit-elle, répondant à côté de la question.
« Pendant tout le temps que je l'ai eu sous ma garde, il était vivant, si fait, même quand je ne le distinguais rien, il restait vivant d'un rouge lumineux, mais il a noirci au son de ta voix, ou presque. il ne veut point aller avec toi. Peu importe, on m'a donné l'ordre de le récupérer.
La voix de Jonas avait adopté un ton doux et conciliant, proche de celui qui était le sien quand il partageait la couche de Coraline.
« Réfléchis un instant à ma situation. Farson veut le cristal. Qui suis-je pour m'opposer aux volontés d'un homme qui sera le plus puissant de l'entre-deux mondes quand la lune du démon se lèvera l'an prochain ? Si je reviens sans lui, en lui disant que Rhea du Chaos me l'a refusé, il me tuera. Si tu reviens lui dire que je l'ai brisé sur ta vilaine gueule de vieillard, il te tuera aussi,
fit Rhea. Elle était suffisamment près de Jonas pour que ce dernier se rende compte à quel point son mal l'a dévoré. Au-dessus des vestiges de sa chevelure, l'infortuné cristal vacillait d'avant en arrière. Elle ne pourrait plus le tenir très longtemps. Une minute, maximum. Jonas sentit une rosée de sueur couvrir son front.
« Si fait, la mère, mais sais-tu bien que si l'on me donne le choix de ma mort, j'entraînerai avec moi la cause de tous mes problèmes, à savoir toi, ma chérie. »
Elle croassa de nouveau, se semblant de rire, mais raillée, et opina ironiquement.
« En tout cas, sans moi, le cristal ne sera d'aucune utilité à Farson, »
reprit-elle.
« Il a trouvé sa maîtresse intuite. C'est pour ça qu'il est devenu tout noir quand il a entendu ta voix. »
Jonas se demanda si beaucoup d'autres individus avaient cru que le cristal leur était réservé. Malgré son envie d'éponger la sueur de son front avant qu'elle ne lui dégouline dans les yeux, il ne décroisa pas les mains posées sur le pommeau de sa selle. Il n'osait regarder ni de pape ni Reynolds, espérant seulement qu'il lui laisserait la direction des événements. Rhea était en équilibre précaire sur un fil du rasoir, aussi bien mental que physique, le plus infime mouvement d'affraîchoir d'un côté ou d'un autre.
« Il a trouvé celle qu'il désire, donc. »
Il se dit qu'il entrevoyait une issue. S'il avait de la chance, et pour elle aussi, ce pouvait être une chance.
« Quelle serait la solution, alors ? M'en venir avec vous ?»
Le visage de Rhea se tordit en un atroce rictus de convoitise. Elle prit subitement l'aspect d'un cadavre qui tente d'éternuer. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de mourir, songea Jonas. Dieu merci.
Prends le cristal, mais prends-moi avec lui. Je te suivrai jusqu'auprès de Farson. « Je deviendrai sa devineresse et rien ne nous résistera, pas si je lis dans le cristal pour lui. Emmène-moi avec toi !»«
D'accord, »
fit Jonas. C'était là ce qu'il avait espéré.
« Mais je n'ai aucune part dans ce que Farson décide, tu sais ça ?»
« Si fait. »«
Bien. Donne-moi le cristal, maintenant. Je te le reconfierai si tu veux, mais il faut que je m'assure qu'il est entier. »
Lentement, elle baissa les bras.
Jonas n'était pas sûr que le cristal fût complètement en sécurité, même serré contre la poitrine de la mégère. Mais il n'en souffla pas moins de soulagement en le voyant là. Elle se traîna dans sa direction, et il dut combattre la pulsion d'éperonner son cheval pour le faire reculer. Il se pencha sur sa selle, tendant la main vers le cristal. Elle leva les yeux vers lui, des yeux encore sagaces sous les paupières couvertes de croûtes. Elle lui adressa un clin d'œil complice.
« Je sais ce que tu as derrière la tête, Jonas, tu penses. Je vais prendre le cristal, puis je dégainerai et je la tuerai. Quel mal à ça ? Pas vrai ? Pourtant, mal il y aurait, et entièrement de ton fait, tue-moi !» Et le cristal ne rebrillera jamais plus. Pour Farsan, pour quelqu'un d'autre s'y fait un jour, peut-être, mais pas pour lui. Et tu crois qu'il te laissera la vie si tu lui rapportes son joujou et qu'il découvre qu'il est cassé ?
Jonas y avait déjà réfléchi.
Nous avons passé un marché, la mère. Tu iras dans l'ouest avec le cristal, à moins que tu ne meures en cours de route un soir au bord de la piste. Tu me pardonneras de te dire ça, mais tu n'as pas l'air très en forme.
Son rire caquetant retentit encore une fois.
Je vais mieux que j'en ai l'air. Oh ouais, il me reste encore des années avant que le tic-tac de ma vieille pendule fatigue.
À mon avis, tu te gourres la vieille, songea Jonas. Mais il la boucla et se contenta de tendre la main vers le cristal. Elle le conserva encore un instant. Ils avaient conclu un accord entériné par les deux parties. Mais au final, elle avait du mal à se contraindre à lâcher le cristal. Une rapacité luisait dans ses yeux, comme la lune à travers le brouillard. Il tendait toujours la main, patiemment, se taisant, attendant que Rhea se fasse une raison et accepte la réalité. Si elle renonçait, il y avait encore une chance. Si elle s'obstinait, il était plus que probable que tous ceux présents dans cette cour rocheuse, herbus, embrasserait sous peu la jolie dame à la faux, Rhea comprise. Avec un soupir de regret, elle finit par remettre le cristal entre les mains de Jonas. À l'instant où il passa d'elle à lui, une étincelle rose pulsa dans son tréfonds. Une pointe de douleur transperça le crâne de Jonas et un frémissement de lascivité se leva dans ses couilles. Venant de très loin, semblait-il, il entendit De Pape et Reynolds armer leurs pistolets.
« Rangez ça !» leur ordonna Jonas. Mais Reynolds avait l'air perplexe.
« Ils ont cru que t'allais doubler Rhea !»
fit la vieille, caquetant de plus belle.
« C'est une bonne chose que ce soit toi qui commande et point eux, Jonas. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils savent pas. »
Ah, pour ça, oui. Ils savaient quelque chose. Combien était dangereuse la chose lisse et cristalline qu'il tenait dans ses mains. Elle pouvait s'emparer de lui en un battement de cils si l'envie lui en prenait. Et au bout d'un mois, il serait semblable à la sorcière, décharné, marqué de plaies ocre rouge, et trop enfoncé dans son obsession pour le savoir ou s'en soucier.
« Rangez-moi ça !»
hurla-t-il. Reynolds et De Pape, après avoir échangé un coup d'œil, rengainèrent leurs armes.
« Cette chose avait un sac !»
dit Jonas.
« Il y avait une bourse dans le coffret. Va la chercher. » C'est fait.
dit Réa, qui lui décocha un sourire peu amène.
Mais ça n'empêchera point le cristal de te prendre s'il le veut. Pas la peine que tu croies ça.
Elle surveillait les deux autres du coin de l'œil et Reynolds plus précisément.
Il y a une carriole dans l'étable et mes deux braves chèvres grises pour l'attirer.
Elle avait beau s'adresser à Reynolds, elle n'arrivait pas à lâcher le cristal des yeux, remarqua Jonas. Et voilà-t-il pas maintenant que ces saletés d'yeux à lui voulaient l'imiter.
« Tu me donnes pas d'ordre !» fit Reynolds à la vieille.
« Non, mais moi, si !» dit Jonas.
Son regard tomba sur la boule, dans l'espoir et à la fois la crainte de voir palpiter à nouveau l'étincelle rose au tréfonds du cristal. Mais rien ne se passa. Il était froid et sombre. Jonas releva les yeux avec peine vers Reynolds.
« Sors-moi cette carriole !»
12. Reynolds entendit bourdonner les mouches avant même qu'il ne se faufile par la porte branlante de l'étable et sut aussitôt que les chèvres de Réa ne tireraient plus jamais rien. Elles gisaient les pattes en l'air dans leur enclos, le ventre enflé et les yeux grouillants d'asticots. Il était impossible de savoir quand Réa les avait nourries et abreuvées pour la dernière fois, mais Reynolds supputa une bonne semaine en se fondant sur l'odeur. Trop occupé à regarder ce qui se passait dans cette boule de verre pour ça, songea-t-il. Et elle porte ce serpent crevé autour du cou, pour quoi faire ? Je peux le savoir, marmonna-t-il derrière le bandana qu'il avait ôté pour s'en couvrir la bouche. La seule chose qu'il voulait pour l'instant, c'était se tirer de là, vite fait. Il aperçut la carriole qui, peinte en noir, était recouverte de motifs cabalistiques dorés. Aux yeux de Reynolds, elle avait moitié l'air de la carriole d'un médecin charlatan, moitié l'air d'un corbillard. La prenant par les brancards, il la tira hors de l'étable le plus rapidement possible. De Pape n'avait qu'à se charger du reste au nom des dieux. Atteler son cheval à la carriole et emporter cette marchandise puante et avariée qu'était la vieille, juste où, au fait ? Qu'il savait ? Eldred, peut-être ? Réa sortit à pas chancelant de sa masure, tenant la bourse dans laquelle il lui avait remis le cristal. Mais elle s'immobilisa, l'oreille tendue, quand Reynolds formula à haute voix sa question. Jonas réfléchit avant de répondre.
« À fond de mer, pour commencer, je pense. » « Ouais, ça lui conviendra, et cette babiole de verre aussi, je gage, jusqu'à la fin de la fête, demain. »« Si fait, à front de mer, j'y ai jamais été !»
renchérit Réa, se remettant en branle.
En arrivant près du cheval de Jonas, qui tentait de se reculer loin d'elle, elle ouvrit la bourse. Après un instant de délibération supplémentaire, Jonas y laissa choir le cristal. Il arrondit le fond du sac en forme de grosses larmes. Réa afficha un sourire matois.
« Peut-être qu'on rencontrera Thorin, là-bas. Si ça se fait, je pourrais lui montrer quelque chose dans le joujou de l'homme de bien. » qui l'intéresserait au plus haut point. Si jamais tu le rencontres, ce sera dans un endroit où on n'a pas besoin de magie pour y voir loin. »
fit Jonas, quittant sa monture pour aider à atteler le cheval de deux papes à la carriole noire. Elle le regarda, fronçant le sourcil. Puis lentement, le sourire finaud réapparut sur ses lèvres.
Ben alors, c'est à croire que notre mère a eu un accident ?
Ça se pourrait, opina Jonas.
Elle gloussa, son gloussement virant bientôt à un caquettement à gorge déployée. Elle caquetait toujours quand ils quittèrent la cour, tandis qu'elle trônait sur sa carriole noire aux ornementations cabalistiques, comme la reine des lieux sombres en personne.